Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir. Soir Info qui démarre et qui vous accompagne sans interruption jusqu'à minuit. On va décrypter toute l'actualité avec mes invités du soir. Bonsoir Eric Tegner,
bonsoir,
directeur de la rédaction de Livre Noir. Alexandre Devecchio est parmi nous ce soir, impeccable.
Bonsoir.
Alexandre, rédacteur en chef au Figaro. Régis Le Sommier, journaliste, bonsoir. Rédacteur en chef pour Omerta, également avec nous. Bonsoir Régis.
Bonsoir Julien.
Nathan Devers.
Bonsoir Julien.
L'excellent Nathan Devers qui revient d'une conférence dans le sud de la France, écrivain notamment. Rappelez-nous le titre de votre dernier bouquin,
Penser contre soi-même,
évidemment. Karim Abric de la rédaction, bonsoir cher Karima, et bonsoir cher Yoann Uzaï du service politique de CNews.
Bonsoir,
beaucoup d'actualités à décrypter ensemble, évidemment qu'on reviendra sur la laïcité et cette problématique du lycée Maurice Ravel. Sachez que l'avocat du proviseur qui est impliqué dans cette affaire sera avec nous dans une quinzaine de minutes, mais d'abord je voudrais qu'on parle un petit peu économie, puisque là aussi c'est une des actualités de la semaine, alors que le Premier ministre a dévoilé hier les pistes d'une prochaine réforme de l'assurance chômage pour engranger des économies. La France, dont le déficit se creuse donc dangereusement, mais les bouchées doublent également sur la fraude sociale. La Caisse nationale d'assurance maladie a dressé aujourd'hui le bilan des fraudes à la sécurité sociale et elle bat des records. On va en parler avec Charles Prats, ancien magistrat spécialiste de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Bonsoir monsieur et merci beaucoup d'être avec nous pour justement commenter et décrypter tout cela. Mais d'abord, l'essentiel à retenir donc avec Éric de Rietmatten sur place à la Caisse d'assurance maladie aujourd'hui.
Ah oui, cette fraude à la sécurité sociale, elle ne fait que de progresser, à croire qu'il y a de plus en plus de fraudeurs. 466 millions d'euros ont été détectés l'an dernier, c'est 50% de plus en l'espace d'un an. Alors que s'est-il passé? Principal responsable, le 100% santé. Et oui, il y a des abus là-dessus, notamment avec la vision, les lunettes qui sont remboursées à 100%, les audioprothèses. Rendez-vous compte qu'il y a eu 5000 entreprises nouvelles qui se sont créées l'an dernier, spécialisées en pose de systèmes audioprothèses. Incroyable. Alors, il y a aussi après les traditionnelles escroqueries autour des faux arrêts de travail, ça coûte cher à la sécu. Mais la traque continue. Ça se passe aussi beaucoup sur Internet avec les fausses ordonnances qui circulent. Résultat, 1500 agents, des cyber-enquêteurs qui sont carrément sur le net. Et puis, quand on dit fraude, chasse, on détecte 466 millions d'euros, ça paraît pas beaucoup au regard des chiffres de la Cour des comptes qui parlent de 3 milliards. Alors le directeur de l'assurance maladie répond: ne vous inquiétez pas, on n'est pas au bout du chemin, ça va continuer et en 2027, on aura pratiquement les chiffres de la Cour des comptes, on aura récupéré 2,7 milliards si tout va bien. Mais c'est quand même la preuve qu'en France, eh bien, la fraude et les abus à la sécu continuent.
Bonsoir Charles Prats, donc ancien magistrat, spécialiste de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. D'abord, peut-être une
Bonsoir.
Question très factuelle. Les efforts accrus de l'assurance maladie dans cette lutte anti-fraude en 2023 lui permettent donc d'enregistrer 50% la fraude détectée et stopper 466 millions d'euros. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une goutte d'eau dans l'océan ou au contraire un très bel effort et un très bon signal?
Alors, c'est, quand il y a une progression, c'est toujours bien. Maintenant, on se moque un peu du monde. Passez-moi l'expression. La fraude à l'assurance maladie, la principale, c'est quelque chose. Je vois qu'il y a Alexandre Devecchio qui est sur votre plateau. Donc, c'est des discussions que j'ai pu avoir avec lui à de nombreuses reprises. Donc, il connaît ça très bien. La principale fraude sociale, d'ailleurs, aux prestations sociales et notamment à l'assurance maladie, ce sont les immatriculations sociales frauduleuses des gens dans le système. Ce sont les millions de personnes immatriculées en plus dans le système par rapport aux gens qui existent. Ça, c'est une discussion que j'ai eue en tête-à-tête avec Gabriel Attal quand il était ministre du budget l'année dernière. Et c'est ce que lui a d'ailleurs dit l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale des Affaires Sociales l'année dernière aussi. Vous avez, alors pour l'IGF et l'IGAS, au moins 4 millions de personnes immatriculées à la Sécurité sociale, des assurés sociaux pris en charge, en trop. Voilà, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport d'avril 2023. Quand moi j'ai donné des éléments à la commission d'enquête en 2020 et que la commission d'enquête avait travaillé, ils en avaient trouvé quasiment 5 millions de trop. Et en réalité, à l'époque, la Cour des comptes nous expliquait qu'on avait 75 300 000 assurés sociaux pris en charge pour 67 millions d'habitants à date. Donc le problème, il est là. Donc c'est très bien que l'assurance maladie aille chercher 466 millions d'euros de fraude. La seule fraude qu'on trouve, c'est celle qu'on cherche. Et là, en l'espèce, sur les immatriculations sociales frauduleuses, ils ne les cherchent pas. Or, la France est dans un état budgétaire quand même catastrophique. Je crois que tout le monde est en train d'en parler ces jours-ci. La situation éclate, la vérité éclate à la figure des Français. Et on n'a plus les moyens de laisser partir comme ça des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Donc si Gabriel Attal veut vraiment prendre le taureau par les cornes, si le patron de la CNAM veut prendre le taureau par les cornes, effectivement, il faut aller chercher les professionnels de santé fraudeurs, etc. Mais il faut d'abord...
C'est d'ailleurs de ces fraudes sociales, hein, les professionnels de santé, vous me le confirmez?
Ah ben, je vous confirme que c'est la majorité des fraudeurs qu'on trouve parce que c'est ceux qu'on cherche.
Oui, voilà.
Voilà. C'est maintenant, si on s'amusait à chercher les millions de gens qui sont immatriculés, qui sont assurés sociaux pris en charge et qui ne devraient pas l'être, je peux vous dire que la majorité de la fraude, ce ne serait pas les professionnels de santé.
Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas avec les moyens, pardon, hein, question un peu de profane, mais avec les moyens technologiques que l'on peut avoir dans le monde moderne en 2024, comment on n'est pas capable de détecter les fausses des vraies cartes vitales, ceux qui sont immatriculés comment on n'y arrive pas en fait?
Julien Pasquet, ce ne sont pas des fausses cartes vitales. Je crois que tout le monde confond, encore une fois, l'histoire. On n'est pas sur une histoire de cartes vitales, on est sur une histoire de droit ouvert à la sécurité sociale. Des cartes vitales, il y en a 54 ou 55 millions. Il y a évidemment des cartes vitales en surnombre avec des droits ouverts qui ne devraient pas l'être, mais le problème, c'est un problème d'ouverture de droits. Et quand vous avez 75 millions de gens avec des droits ouverts pour 67, 68 millions d'habitants, vous comprenez immédiatement qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a un souci. Et donc, il faut remettre à plat la base des assurés sociaux, utiliser la biométrie pour sécuriser l'identité sociale. C'est d'autant plus urgent que je vous rappelle qu'on a quand même les données de plus de 40 millions de Français qui sont partis dans la nature suite à des hacks et donc à des pénétrations informatiques sur les systèmes de sécurité sociale et de France Travail, qui sont d'ailleurs en vente sur le Darknet. Et donc aujourd'hui, tout le monde peut se faire usurper son identité, y compris avec le numéro de sécurité sociale. Ce qui veut dire que la biométrie n'est plus du tout un problème d'atteinte aux libertés publiques, comme pourrait le dire la CNIL ou le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, c'est une nécessité de sécurisation de l'identité sociale des gens, parce qu'au regard des problématiques de sécurité informatique qui sont avérées, avec toutes les fuites qui sont intervenues, si on ne sécurise pas l'identité sociale des Français très très vite avec la biométrie, on va avoir des usurpations d'identité et des catastrophes financières individuelles pour les gens. Et tout le monde ira pleurer.
Si je dis que jusqu'ici, du moins, c'est un jeu d'enfant de profiter du système dans ce pays, j'ai raison ?
Oui, bien sûr. C'est très facile. C'est évidemment très facile. Et ça l'est encore plus maintenant que vous avez toutes les identités qui se baladent pour quelques centaines d'euros sur le Darknet avec l'ensemble du fichier des Français. C'est quelque chose qui change la donne d'ailleurs, ces pénétrations informatiques depuis quelques mois. Ça change complètement la donne en matière de risque de fraude sociale et de détournement et d'escroquerie pour les Français. Et si le gouvernement ne prend pas le taureau par les cornes très très vite, on va au devant de très sérieuses déconvenues et pas simplement en matière de finances publiques.
Je lisais en préparant aujourd'hui donc que le montant total des prestations versées par l'assurance maladie sur l'année passée, 2023, était de 247,6 milliards d'euros. Ce sont les chiffres de la loi de financement de la sécurité sociale. La France est trop généreuse?
Alors, 247 milliards d'euros, ce sont les dépenses, ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La France n'est pas trop généreuse, vous savez, on a...
Mais elle peut mourir de ses aides sociales.
Les dépenses de protection sociale, globalement, ce sont 900 milliards d'euros, c'est un tiers du PIB. Ça a été multiplié par deux depuis la fin des années 70, début des années 80. Donc, effectivement, la problématique de finances publiques, la problématique d'endettement de la France, la problématique de déficit budgétaire qu'on a... Notre problème de finances publiques, c'est d'abord un problème de dépenses sociales qui sont beaucoup trop importantes. C'est un sujet qui est connu. À un moment donné, il va falloir expliquer aux Français qu'on n'a plus les moyens de se payer comme ça à un tiers du PIB en dépenses de protection sociale. Cela étant dit, sur les dépenses d'assurance maladie, on dépense beaucoup d'argent, mais je vais vous donner deux autres chiffres, encore une fois, qui sont tirés des rapports de la Cour des comptes. Vous savez, avant le Covid, la Cour des comptes a déterminé que nous avions 66 800 000 personnes qui individus qui bénéficiaient de soins qui se faisaient rembourser chaque année. C'est-à-dire quasiment 100% de la population résidente. Or, il y a des sondages qui sont faits, tout le monde ne va pas voir le médecin chaque année, et vous avez à peu près 16% de la population qui explique ne pas aller consommer des soins chaque année. Donc c'est la première fois qu'on avait une photographie un peu floue de ce qu'on appelle le tourisme médical, donc à peu près 15% des gens qui venaient se faire soigner, se faire rembourser des soins, qui n'étaient pas résidents sur le territoire national. Et donc là, on a un vrai sujet, encore une fois. Et je vous rappelle, 15%, vous avez vous-même rappelé le chiffre, 247 milliards d'euros, je vous laisse faire le calcul de ce que ça peut représenter en matière de dépenses indues. Parce que normalement, sur l'assurance maladie, un des principes, c'est que vous êtes pris en charge quand vous êtes résident sur le territoire national. Mmh. Sauf si vous êtes affilié à la Caisse des Français de l'étranger, quand vous êtes expat, vous n'êtes pas pris en charge par la CNAM. Sauf cas très spécifiques, quand vous n'êtes plus résident en France, que vous êtes étranger, que vous ne vivez plus en France, vous n'avez plus à être pris en charge par l'assurance maladie française, par la sécurité sociale.
Et puis ce que je disais également, c'est que non seulement, donc vous me confirmez que c'est un petit peu un jeu d'enfant de vouloir de tenter de profiter du système, et puis surtout ça ne fait pas peur, parce que si les fraudeurs avaient peur de la patrouille, peut-être, quand bien même c'est aisé de frauder, ils y réfléchiraient à deux fois. Il y a pas assez de sanctions.
C'est compliqué. D'abord, il faut les attraper. Si vous les attrapez en masse, les tribunaux...
Et là, par exemple, les 50% d'augmentation détectée, les 466 millions d'euros, les gens qui sont ciblés par ces fraudes-là, qu'est-ce qu'ils risquent concrètement? On va leur demander juste de rembourser ce qu'ils ont pris?
Mais vous savez, à l'époque où j'étais magistrat à DLNF et je pilotais au niveau national l'activité des CODAF, des comités opérationnels départementaux anti-fraude. Et quand j'allais dans les réunions dans les départements, systématiquement, je glissais au préfet de poser une question et de demander combien est-ce que vous avez détecté de fraudeurs au patron de la caisse primaire d'assurance maladie. Et après, combien est-ce que vous avez prononcé de sanctions administratives et combien vous avez déposé de plaintes pénales. Et alors là, c'était le gros blanc parce qu'en réalité, ils détectaient des fraudeurs, mais ils ne les poursuivaient pas. Et il ne les sanctionnait pas. Donc évidemment, quand vous êtes un fraudeur, que vous faites rattraper par la patrouille et que derrière, vous n'avez pas de sanction, vous rigolez doucement. Quoi. Voilà, et le problème, il est là. Ce serait d'ailleurs un chiffre intéressant pour vous, aux journalistes, pour enquêter, pour CNews ou d'autres organes de presse, comme il y a quand même pas mal de journalistes autour de la table. Regardez combien il y a eu de fraudeurs détectés l'année dernière, annoncés par la CNAM, et regardez derrière combien ils ont prononcé de sanctions administratives et combien ils ont déposé de plaintes pénales, et comparer les deux chiffres. Je pense qu'on va avoir des surprises assez amusantes. Et quand vous leur demanderez l'explication de l'écart, ils seront très embêtés pour répondre.
Un commentaire en plateau, Johan Usaï.
Non, tout ça m'inspirait une réflexion en réalité. J'étais favorable à la réforme des retraites, je suis favorable à la réforme de l'assurance chômage. Néanmoins, je me mets à la place des gens qui ont manifesté contre la réforme des retraites. Je me mets à la place des chômeurs à qui on va dire...
Qui ne manifesteront pas.
Qui ne manifesteront pas, naturellement. À qui on va dire, bien, vous arrivez en fin de droit, vos allocations vont progressivement... diminuer à cause de cette réforme, pour espérer économiser pour l'assurance chômage quelques milliards d'euros, et encore pour la réforme des retraites, espérer, je dis bien espérer, économiser à terme 14 milliards d'euros, c'est beaucoup, hein, mais oui. 14 milliards d'euros, là sur cette simple,
on a 3100 milliards
là, sur
d'être, hein.
Cette simple fraude qui nous est décrite par Charles Prats, on parle de à minima 30 milliards d'euros, si j'ai bien compris. Donc, il est vrai qu'on aime en France, manifestement, s'attaquer aux petits problèmes.
C'est exactement ce que j'allais dire à Charles Prats en Suisse.
Ce qui pose véritablement un problème dans ce pays n'est jamais résolu, en réalité.
Les chômeurs hier, les fraudeurs sociaux aujourd'hui, Charles Prats, le gouvernement est fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Je parle des fraudeurs fiscaux, cette fois, des entreprises, des super profits. Ça, ce sont des sujets sur lesquels le gouvernement ne s'est pas attardé ces derniers jours.
Oh, si, puisqu'en réalité, les services, les administrations luttent contre toutes les fraudes. Si vous voulez, ce qui vient d'être dit par votre journaliste est très important. Moi, à l'époque, j'étais très opposé à la réforme des retraites pour une raison toute simple. Je l'ai écrit un certain nombre de fois et je l'ai dit toujours publiquement. Je veux d'abord aller chercher l'argent dans la poche des voleurs et des fraudeurs plutôt que dans celle des contribuables. Voilà. Et une réforme des retraites... il faut appeler un chat un chat, une réforme de la retraite, ça veut dire baisser les pensions, n'est acceptable que si avant on est allé chercher l'argent dans la poche des voleurs et des fraudeurs. Et c'est un préalable pour que l'impôt soit accepté, pour que les réformes douloureuses auxquelles on va avoir droit soient acceptées. Vous savez, là, tout le monde est en train de tourner autour du pot, mais évidemment que les impôts vont augmenter. Vous avez vu la tête du déficit budgétaire et de l'endettement? C'est juste pas possible de faire autrement.
Le gouvernement nous a dit le contraire. Bruno Le Maire nous a dit le contraire encore hier. Il nous a menti?
Ben voyons, comme dirait l'autre. Bah, évidemment que c'est de la roupie de Sansonnet. Évidemment qu'à un moment donné, vous croyez qu'il se passe quoi en ce moment au niveau du service de la législation fiscale à Bercy? Tout le monde est en train de plancher sur comment est-ce qu'on va trouver des impôts, des nouveaux prélèvements obligatoires, etc. Comment est-ce qu'on va faire pour essayer de rétablir l'équilibre? Parce qu'il ne va pas y avoir d'autres solutions. Couper dans la dépense publique, on va essayer de le faire, évidemment. Sauf que vous voyez bien, dès qu'on va commencer à parler de couper dans la dépense sociale, oulala, oulala, vous allez avoir des levées de boucliers. Dès qu'on va commencer à parler un petit peu d'augmentation de la pression fiscale, ben, ça va un petit peu tiquer. Évidemment qu'une des solutions, ce serait l'augmentation de la TVA, parce qu'on sait que c'est là où on ramasserait le plus d'argent et que c'est un des impôts les plus efficaces, et quoi qu'on en dise, un des plus justes. Voilà, mais
c'est le fantôme des gilets jaunes, le fantôme de certains mouvements sociaux qui planent au-dessus de la tête du gouvernement. Et en effet, pour l'instant, on s'attaque surtout à ceux dont la voix porte assez peu, et en l'occurrence, les chômeurs, c'est vrai. Non, mais... un petit mot d'Alexandre Devecchio.
J'abonde dans le sens de Charles Pratt. Pour que les réformes soient acceptées, il faut effectivement commencer par avoir un travail efficace de l'État. Et là, c'est le cas. C'est pour ça que moi aussi, j'étais opposé à la réforme des retraites. Johan Usaï a parlé de la réforme des retraites. Il a parlé de la réforme de l'assurance chômage. On pourrait aussi parler des services publics qui se paupérisent. On l'a vu pendant la crise du Covid. On coupe des lits dans les hôpitaux. Les services hospitaliers sont débordés, mais on pourrait prendre le même exemple dans la police, dans la justice, à l'école, dans l'armée, où on a commencé à augmenter les budgets, mais on voit bien que si on était envahi demain, on aurait une capacité de résistance extrêmement faible. Donc, il y a tout ça pour continuer à faire que certains vivent sur le dos de la société. C'est, je crois, quelque chose qui est totalement insupportable. Donc, c'est bien de le dire. Et à ça s'ajoute aussi, puisqu'on va chercher des économies, aussi une forme de gabegie ou de délire. On a mis 1 milliard pour nettoyer la Seine, pour nager dans la Seine. On nagera jamais dans la Seine. Je veux pas être démagogue, mais c'est un exemple comme un autre. Je vous en donne un autre. On a Raphaël Glucksmann qui fait une campagne européenne sur le thème du remboursement des règles.
C'est 1 milliard d'euros d'argent public, la Seine.
C'est
1 milliard d'euros d'argent
public. La Seine.
Vous êtes sûr?
Oui, je suis sûr.
Puisqu'on
fait. Ça me laisse sans voix.
Non, mais
c'est vrai que c'est beaucoup.
Il y a des chiffres qui sont effectivement surprenants. Et on parle de gabegie. On aime bien dans ce pays gaspiller de l'argent inutilement. C'est vrai. Puisqu'on cherche de l'argent, une petite économie, 1 milliard au niveau du budget de l'État, c'est pas grand chose, mais 1 milliard. Il y a 200 000 fonctionnaires dans ce pays qui travaillent moins de 35 heures par semaine. Ça coûte 1 milliard d'euros par an. Voilà. On peut récupérer comme ça, en claquant des doigts, quasiment 1 milliard d'euros.
Dernier mot, Charles Pratt. Depuis 2017, on a noté donc qu'en 7 ans, Emmanuel Macron était le champion de la dette, puisqu'il a accumulé, enfin, sous son mandat, sous ces deux mandats, ce sont mandats et demi. Allez, on va le dire très précisément. Il a accumulé 900 milliards d'euros de dettes. Tout est de la faute du président de la République.
Écoutez, je vais reprendre le bon mot que j'avais sorti pendant la campagne présidentielle. On nous avait vendu le Mozart de la finance, on a le Beethoven de la dette.
On l'a entendu également de la part de Nicolas Dupont-Aignan, je crois, ces derniers jours. En effet, ça revient pas mal. Est-ce qu'on peut être positif, se dire que la France reste quand même notamment la deuxième puissance économique de l'Union européenne, conserve toutefois quelques atouts, tout n'est pas perdu?
Ah bah, tout n'est pas perdu, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Et on va nager dans la Seine, en plus.
Et en plus, on va nager dans la Seine. Non, mais vous savez, j'ai coutume de dire qu'une bataille n'est jamais perdue avant d'avoir été menée jusqu'au bout. Et c'est le génie français. Il faut quand même toujours avoir confiance dans la France. On s'en est toujours sorti malgré tout depuis qu'on existe, c'est-à-dire depuis 496, depuis le baptême de Clovis. Donc voilà, la France en a vu d'autres, mais là en ce moment c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On va se bagarrer.
Quand on regarde nos voisins, on se dit, on pensait que l'Allemagne, elle était là visiblement ça va pas du tout. Je crois qu'on annonce 0,1% de croissance pour l'Allemagne. On va pas se réjouir en se disant ça va moins bien chez
je
les
crois
autres.
En termes de dette, ils sont quand même mieux lotis que nous.
Et fiscalement, ils ont été bien administrés depuis longtemps.
On est les trois derniers les trois pires élèves de l'UE sur cette question de la dette. Merci infiniment, Charles Prats, de nous avoir éclairé. C'est un plaisir de vous entendre, ancien magistrat spécialiste de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. À très bientôt, je l'espère, sur nos antennes. Tout autre sujet fort de l'actualité des derniers jours également, l'État va donc porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre cette jeune femme qui voulait entrer dans l'établissement voilé, mais ça ne changera rien à ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel de Paris 20e arrondissement, puisque le proviseur est parti. Qui a gagné? La réponse est probablement déjà dans la question. Écoutez, la ministre de l'Éducation nationale qui s'est attardé de nouveau sur le sujet chez nos confrères de RTL aujourd'hui. Et puis on sera en direct dans quelques secondes avec l'avocat de ce proviseur du lycée Maurice Ravel qui nous répondra. Écoutez Nicole Belloubet.
C'est un événement extrêmement grave parce que, au fond, ce proviseur et lorsque nous l'avons reçu hier avec le Premier ministre à Matignon, il l'a dit, il n'a fait que son travail. C'est-à-dire qu'il demandait à l'élève de respecter les lois de la République. Or, dans un établissement, évidemment, ces lois de la République, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et donc, il a demandé ce respect-là. Il n'a pas été écouté et donc il n'a pas été respecté, ses lois n'ont pas été respectées par l'élève. Ce qui s'en est suivi est évidemment inacceptable. Dès que les événements se sont produits, on a, quand je dis on, c'est collectif, c'est-à-dire que je fais allusion aux forces de l'ordre, au pouvoir judiciaire, je fais allusion aux services académiques qui, en tout premier lieu, ont dressé autour de ce proviseur un bouclier de protection. Je crois que c'est notre rôle. Nous devons vraiment protéger nos personnels. Il y a, je me semble-t-il, l'État un impératif qui est celui vraiment de protéger ceux qui font vivre la République et parmi eux les personnels de l'éducation.
C'est-à-dire qu'il est sous protection policière.
Alors, il est absolument protégé, évidemment, il n'est pas sous protection policière au moment où nous parlons, mais il a un accès direct à la police avec des dispositifs que je n'ai pas ici à déployer. Et évidemment, il a la protection judiciaire, il est suivi en permanence.
Bonsoir, maître Lec, Francis Lec, avocat donc de ce proviseur du lycée Maurice Ravel. Vous êtes avocat également du syndicat
Bonsoir
national des directeurs d'établissements de l'éducation nationale. Merci de nous répondre en direct. Question très simple pour commencer. Comment va votre client et que lui a apporté son entretien d'hier avec le Premier ministre et la ministre de l'éducation nationale?
Alors vous savez que pendant plusieurs semaines, il a subi un état d'anxiété pour des événements que vous avez peut-être relatés. Il a été dès le départ pris en charge par l'éducation nationale et l'autorité judiciaire, ce qui est un changement important dans ce dossier-là. Alors, il est évidemment agréablement submergé par tout le soutien qu'il a reçu des professeurs, des parents d'élèves, qui évidemment se sont aperçus qu'il avait été victime, une première victime d'un mensonge éhonté d'une élève qui ne voulait pas enlever son voile et qui, par la suite, effectivement, va actionner les réseaux sociaux dans les conditions qui vont amener leurs auteurs devant les juridictions pénales.
Est-ce que vous diriez que le soutien du gouvernement affiché donc ces 48 dernières heures est trop tardif et que finalement le gouvernement a suivi un petit peu cet effet boule de neige médiatique, mais que cet homme aurait dû être soutenu, entouré, protégé, défendu bien plus tôt?
Il a été soutenu et pris en charge par l'éducation nationale, je vous le répète. Ceci dit, que le Premier ministre
le reçoive...
Pardon,
maître, mais lui dit avoir quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité, alors que le rectorat n'a même pas osé aller dans son sens et a invoqué des convenances personnelles. On sait que la réalité, c'est que oui, il a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité.
Bien sûr, bien entendu. Alors... que le rectorat ait déclaré ce que vous indiquez n'apparaît pas normal et conforme. Toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, il est, pour des raisons de sécurité, il s'est mis de côté dans son établissement. D'ailleurs, les parents d'élèves, de même que les professeurs, ont apprécié son geste. Il se trouve actuellement, et ça vous intéressera, en autorisation spéciale d'absence. Donc il n'est ni à la retraite, ni en maladie. Il fait partie de ces professeurs et de ces chefs d'établissement qui, face au danger, ne se mettent pas en congé, sont présents. Et c'est ce qu'il aura beaucoup de courage dans les événements qui vont conduire leurs auteurs qui l'ont menacé de mort travers toute la France devant les juridictions pénales.
Maître Lec, justement, quelle était, si vous pouvez le dévoiler, bien sûr, la teneur des menaces qu'il a reçues? Et deuxième question dans la question, tous les auteurs de ces menaces ont-ils été identifiés et interpellés?
Alors, je ne vous ai pas entendu.
Alors, je disais, pardonnez-moi, quelle était précisément la teneur, si vous pouvez me le dire, la teneur des menaces qu'il a reçues, et tous les auteurs ont-ils été identifiés?
Alors, les menaces qu'il a reçues, c'est notamment un des auteurs qui va comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris le 23 avril prochain, a lancé, par exemple, il faut le brûler. Vive ce chien. Donc quand vous avez des menaces de mort comme celle-là sur les réseaux sociaux, vous comprenez bien que vous êtes complètement ému. Il y aura une autre menace de mort. Il faut lui en mettre deux à ce fils de lâche. C'est ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Et puis vous devez savoir en particulier que le 1er mars, il y aura une manifestation qui sera organisée devant le lycée parce qu'on croira qu'il avait usé de violence à l'égard de cette jeune fille, qui sera un mensonge éhonté. Et évidemment, là encore, il va recevoir des menaces devant ce lycée. Donc par conséquent, voilà l'état de situation et d'agressivité et de menaces de mort dont il va faire l'objet. Il y a le tribunal correctionnel qui va se pencher sur d'une personne qui est poursuivie le 23 avril. Un autre a été poursuivi à Lisieux. On ne les connaît pas, mais à Lisieux, paradoxalement, le tribunal, en comparution immédiate, a relaxé cette personne. Et avec le procureur Labic de Lisieux, nous sommes constitués par civil, ils ont fait appel. Et d'autres personnes seraient encore en place d'être identifiées dans la région lyonnaise. Mais là encore, nous n'avons pas de précision sur ce point.
Maître Lex, si vous voulez bien vous rester public. Allez-y, je vous laisse terminer votre phrase, pardonnez-moi.
Le ministère public lui a décidé de comparution immédiate. Je voudrais surtout insister sur le fait que le proviseur dont vous parlez a bénéficié du soutien de ses collègues et il est très réconforté. Vous me demandiez comment il se passait. Sachez en particulier que le 4 mars, quelques jours après ce flot de menaces de mort, il va recevoir l'appui d'un collectif laïque de 170 proviseurs les principaux de collège, qui vont dire quoi ? Qui vont lui apporter son soutien ? Qui vont demander surtout l'on défende la laïcité dans les établissements et que le gouvernement ne recule pas, ne faiblisse pas par rapport à ces attaques et à ces attaques et ces attaques qui sont perpétrées.
Maître Lec, si vous le voulez bien, vous restez avec nous. Je fais un tour de table et je reviens vous voir dans une poignée de secondes. Réaction, Éric Tegner, d'abord à ce que vient de nous dire cet avocat sur son client. Et puis, avec le recul, encore une fois, quel scénario proche de celui qui a mené au destin tragique de Samuel Paty.
C'est pour ça que moi, personnellement, je suis très surpris qu'aujourd'hui, ce professeur ne soit pas sous protection policière. Madame Belloubet parlait de dispositions qui ont été mises en place.
Il est protégé, mais pas sous le régime de la protection policière.
Aujourd'hui, lorsqu'on lit l'interview de cet avocat, notamment au Figaro, c'est qu'il a une ligne directe avec des services de police. Et dans le cadre d'un problème, il peut les appeler. Faut quand même se rappeler que Samuel Paty, la problématique,
c'est... Mais je crois que c'est son choix. C'est quelqu'un... On peut peut-être demander à Maître Lec.
On pourra lui demander.
Maître Lec, alors si Maître Lec est avec nous, juste rapidement, en quelques mots, s'il vous plaît, Maître, c'est son choix de ne pas avoir une protection rapprochée policière ou c'est ce qu'on lui a imposé ?
C'est son choix.
C'est son choix.
Non, c'est son choix. Mais comme le dit Madame la ministre, il a tout le dispositif à sa disposition à l'intérieur du lycée.
Donc il est protégé à la hauteur de la menace.
En cas de besoin. Ah ben, il est toujours en état d'anxiété. C'est tout à fait logique, vous comprenez.
Bien sûr.
Donc par conséquent, là, il n'a pas une présence policière comme une nécessaire, car il ne veut pas non plus. Alors il y a des services de police qui sont autour du lycée.
Bien sûr.
Mais ça, c'est extérieur. Bon. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de service de police pour le protéger.
C'est entendu. Il vit dans le lycée, c'est pour
avec
ça.
Avec ses collègues, et c'est très important.
Je reviens vers vous, cher maître. Merci beaucoup. Éric, je vous laisse poursuivre. Nathan va reprendre.
C'est son choix, mais ça n'empêche pas que si on se rappelle de Samuel Paty, la problématique, c'était d'avoir quelqu'un qui s'est dit, depuis la Normandie, je viens et je passe à l'acte. Et ça, c'est ce qui est extrêmement inquiétant sur ce type de fait. Ça nous rappelle aussi une chose, c'est que lorsqu'on a vu aussi l'interdiction de la baïa par Gabriel Attal, parce qu'à la base, ça vient de ça, de ce professeur quand même qu'il faut là-dessus souligner, c'est qu'il a su aller voir cette jeune femme et lui demander d'ôter son voile. On n'a pas aujourd'hui les chiffres officiels et publics qui vont dire combien il y a d'entraves justement à ces lois dans le cadre du port du voile ou dans le cadre du port de l'abaya dans les écoles. Je pense que ça serait important de le mettre en place parce que derrière, il y a des professeurs aussi qui, en voyant ça très bien, cet avocat, il a totalement raison en termes de stratégie aujourd'hui pour son client, eh bien, d'être dans une logique peu constructive avec le gouvernement, évidemment, parce qu'il veut faire en sorte qu'il y ait plus de mobilisation. Mais en attendant, si j'étais professeur ce soir, en voyant cela, en voyant cette médiatisation, ma première réaction serait quand même d'être inquiet malgré tout, parce que ça n'enlève rien au danger islamiste sur notre pays, notamment auprès de populations qui sont de plus en plus jeunes.
Nathan Devers qui voulait réagir également.
Moi, je voulais d'abord dire mon soutien, c'est évident, mais même mon admiration envers ce proviseur, dont on nous dit qu'il est manifestement vers la fin de sa carrière. Ouais, donc il
était
à
quelques mois de la retraite.
Exactement. Donc
on peut imaginer qu'il aurait aimé finir d'ailleurs d'une autre manière.
C'est ça qui est tragique.
Maître Lecq, je sais que vous voulez intervenir, je viens vers vous juste après l'intervention de Nathan Devers.
Qui a eu donc une longue et belle vie professionnelle dans un métier de vocation. L'éducation nationale, c'est précisément cela. Qu'on soit professeur, qu'on soit proviseur, qu'on soit dans l'administration ou non, c'est cette logique-là de faire un métier pour servir directement la vision qu'on a de la République. Face à ce genre d'événement, il faut être absolument, totalement, radicalement intransigeant. Et je le dis, il y a deux phénomènes. Non, mais je vais être concret. Là, je suis abstrait, je vais être concret. Il y a deux phénomènes qui sont particulièrement inquiétants. Le premier, c'est celui dont vous parliez. C'est le fanatisme religieux, en l'occurrence ici islamiste, qui s'empare de problèmes, d'altercations qui peuvent avoir lieu dans tel ou tel lycée, dans telle ou telle classe, avec des élèves qui mentent pas, etc. Et qui en font des tam-tams absolus sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir ou pas, mais une probabilité que quelqu'un qui veuille passer à l'acte, passe à l'acte. La deuxième chose... Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que c'est seulement un fait de l'islamisme. Parce que sinon, dans ce cas-là, on se dit, bon, la plupart du corps social n'est pas concerné par le problème. Il y a quelque chose qui concerne tout le monde. Si vous lisez attentivement les reportages qui ont eu lieu sur ce qui se passe au lycée Maurice Ravel, très intéressant de voir qu'il est dit que les élèves n'ont pas une version claire de ce qui s'est passé.
Non, c'est très mitigé.
Qu'il y a 10 milliards de témoignages.
C'est assez inquiétant de le voir.
Qu'il y a des faux témoins qui se promènent et qui racontent n'importe quoi.
Tout à fait.
Et que donc, à peu près, en gros, c'est une version du réel par élève.
C'est un peu ça.
Et les journalistes qui sont allés sur place, je lisais un reportage intéressant, rencontraient plein d'élèves qui chacun racontait quelque chose de différent. Et ça, c'est aussi une forme d'air. J'aime pas trop le concept, il est un peu trop facile, mais ce qu'on appelle la post-vérité. Mais une situation où on n'est plus capable de s'entendre sur des faits et qui crée une forme de barbarie dans les esprits. Parce que c'est la dissolution du monde public, c'est la dissolution du monde commun. On est incapable de savoir ce qui s'est passé lors d'une dispute. Ça engendre aussi un phénomène de violence de manière structurelle. Et ça, on doit tous et toutes s'interroger là-dessus. Et ça ne concerne pas que l'islamisme.
Oui, Johan.
Simplement, ce que nous disait l'avocat, moi, me semble être encore beaucoup plus grave que ce à quoi on s'attendait, parce qu'il nous dit il a été complètement soutenu par le gouvernement, il a été complètement soutenu par ses collègues, mais alors c'est encore plus grave. S'il a été soutenu par tout le monde, y compris de manière intransigeante par le gouvernement, et que malgré cela il soit obligé de se mettre en retrait, que malgré cela il se sente en insécurité, ça montre bien que le gouvernement est complètement impuissant face à ce genre de situation. Que même avec la volonté, ils n'y parviennent pas. Donc c'est extrêmement inquiétant ce que nous dit l'avocat en réalité.
Maître, vous l'avez ressenti, cette impuissance générale, en quelques mots ?
Non, pas du tout. Mais je veux dire que, vous comprenez,
quand on est dans la situation de ce proviseur... Mais il quitte ses fonctions, donc il y a un moment, de quoi on parle, maître ?
Oui, j'entends bien. Ce proviseur, vous comprenez, il avait vraiment besoin... du soutien de sa hiérarchie. S'il n'avait pas eu, dans quel état il serait aujourd'hui? Il est toujours en état d'anxiété. Il a surtout bénéficié du soutien de ses professeurs. Mais je voudrais revenir sur une chose. J'ai moi-même participé de très près dans toute l'instruction de l'affaire Samuel Paty. Eh bien, je vais vous dire que vous avez, et votre collègue précédent avait raison de dire qu'il y avait un parallèle inquiétant. Tout est parti dans l'affaire Samuel Paty, comme dans notre affaire, par un mensonge d'une adulte qui a été relayé par les réseaux sociaux dans les conditions que vous connaissez. Et ces réseaux sociaux, avec des personnages qui sont diffusés à travers toute la France, se lancent dans des propos et des menaces de mort. Dans l'affaire Samuel Paty, malheureusement, c'est allé jusqu'au bout. C'est pour ça que, bien sûr, il doit être mis en sécurité. Il se sent pour l'instant en sécurité. Et le fait que le Premier ministre l'ait appelé il y a quelques jours, est aussi important. Moi, je trouve ça peut-être tardif part du gouvernement. Ça pouvait être intervenu avant, mais en tout cas, c'est essentiel que le... En tout cas, c'est ce que m'a dit le proviseur, en tout état de cause. Et il ne veut pas non plus donner le sentiment qu'il est en retraite, pas du tout. Il est présent avec ses collègues et il est soutenu.
Mais juste un dernier mot, pardon, oui. Parce que le temps nous est compté, je suis vraiment désolé, mais qu'est-ce que vous attendez pour conclure de la plainte de l'État contre cette jeune fille?
Ah, écoutez, nous avons déposé, nous, 6 plaintes auprès des services de police pour diffamation, pour menace de mort, pour atteinte à une personne chargée d'une mission de service public, car c'est ça aussi le cœur du problème. Et vos collègues avaient raison de le dire, mais ce que fait l'État, il se constitue partie civile, ce qui est assez rare, et d'autre part, il a décidé de poursuivre la jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ouais. Je dirais que c'est bien. Pourquoi ? Parce que quand monsieur le proviseur a voulu aller déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, on lui a dit non. Non, non, monsieur le proviseur, vous avez déjà déposé 5 plaintes, c'est suffisant. Alors vous comprenez qu'aujourd'hui, l'État s'aperçoit qu'il doit poursuivre en dénonciation calomnieuse. Eh bien, ça n'est pas être totalement en flagornie avec l'État, mais dire que quand il fait quelque chose, il faut reconnaître que, au fond, c'était attendu, même si c'est tardif.
Francis Leck, merci beaucoup d'avoir réagi sur l'antenne de CNews en direct. Avocat donc de ce proviseur du lycée Maurice Ravel. Je rappelle que vous êtes l'avocat du syndicat national des directeurs d'établissement et de l'éducation nationale. Merci beaucoup d'avoir été en direct. Je voudrais qu'on entende, avant de réagir tous ensemble, et Karima, vous prendrez la parole la première. Je voudrais qu'on entende Jean-Pierre Aubin, qui était invité ce matin de la grande interview de Sonia Mabrouk. Jean-Pierre Aubin, qui est, comme chacun sait, un ancien inspecteur à l'éducation nationale. Il est auteur, en 2004, de ce fameux rapport sur l'offensive islamiste à l'école. C'était il y a 20 ans, déjà. Un rapport qui a bien dormi dans les tiroirs. Hein. Et Jean-Pierre Aubin parle, lui, aujourd'hui d'une victoire des islamistes, carrément, pour évoquer cette affaire Maurice Ravel.
Je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire et qu'ils la savourent comme telle. Hein, qu'une jeune fille, par le simple fait de provoquer un proviseur, réussisse à le faire démissionner de son poste et à le faire quitter de ce poste, est pour eux une victoire certaine, et pour la République un épisode peu glorieux. Qu'on n'ait pas réussi à retenir ce proviseur, à le protéger et à faire en sorte que dans cet affrontement qui avait été provoqué, qui était voulu, qui était volontaire, ce ne soit pas l'école qui l'emporte, la République qui l'emporte, mais ses adversaires résolus, c'est quand même quelque chose qu'on peut appelé comme certains une capitulation, en tout cas une défaite.
Victoire pour les islamistes, dit-il, et épisode donc peu glorieux pour notre République, Karima Brik.
Oui, on voit que le gouvernement maintenant essaie un peu de rattraper le temps perdu avec cette idée d'aller devant la justice pour dénonciation calomnieuse. C'est important ce que Gabriel Attal a fait là-dessus, par ailleurs, pour renvoyer le signal, essayer de reprendre le contrôle là-dessus. Parce que, oui, les professeurs en ce moment, il y a beaucoup de professeurs qui sont terrorisés. Cette histoire, on écoutait l'avocat du proviseur, voilà, qui nous disait à quel point les menaces de mort parlaient d'être brûlées vifs, littéralement. Donc, imaginez comme ça peut être assez saisissant, assez horrible. Et dans un contexte, je pense qu'il faut mettre ça en plus dans un contexte particulier. Il y a la médiatisation en ce moment, mais le contexte particulier, on le sait, la France en ce moment est en alerte attentat. Il y a un contexte aussi de déstabilisation à l'international. Il y a ça aussi. Et on sait, on n'aime pas les appeler comme ça, mais bon, je pense que tout le monde va comprendre la logique ici. Quand on parle de ces loups solitaires qui attendent aussi certains messages, des antennes à qui ça peut donner des idées. Exactement. Donc, on voit que les fameuses rumeurs, ça prend pas grand-chose aujourd'hui pour être capable de déstabiliser et de créer des situations où on met des cibles dans le dos d'individus qui travaillent justement dans des écoles. Moi, je trouve ça extrêmement grave, ce qui se passe. Donc, oui, la réaction, ça doit être la fermeté, je veux dire, tout azimut. On ne doit rien laisser passer.
Mais pour Jean-Pierre Aubin, c'est une victoire pour les islamistes.
Bien, ce l'est parce que finalement, il a dû se retirer. On voit le contexte quand même. Il était menacé de mort. Il aurait pu arriver quelque chose d'extrêmement grave encore plus. Donc, bon, il est protégé en ce moment, tant mieux. Mais il y a combien d'autres en ce moment? À un moment même où je vous parle, il y a combien en ce moment de professeurs qui font de l'autocensure, qui ont peur d'appliquer la loi? Parce que faisait ce proviseur?
Son
travail. Il voulait simplement appliquer la loi.
Et faire son travail. Victoire pour les islamistes, dit Jean-Pierre Aubin, c'est quand même particulièrement fort comme propos, Régis Le Sommier.
Victoire pour les islamistes, parce que c'est ce qu'ils recherchent.
Vous avez
C'est-à-dire que les islamistes, en fait, à chaque fois, cherchent à mettre un coin dans les domaines les plus fragiles de nos sociétés. Vous savez, un certain nombre de théoriciens de Daesh, notamment un qui s'appelait Mohamed Al-Souri, expliquait que l'Europe, c'était le ventre mou, en fait, qu'il fallait s'attaquer à l'Europe parce que c'était facile. Et là, ce qui semble facile, c'est de s'attaquer au système éducatif. L'éducation pour les islamistes, c'est le début, c'est fondamental. Et imposer cette éducation, en tout cas, comment chasser la nôtre pour imposer la leur, c'est leur objectif.
Ils testent
et
l'école.
Ils le disent. Et le problème de ce type d'affaires, on l'a vu avec Samuel Paty, c'est que il y a un moment, tous les professeurs, ils essayent de se tenir les coudes, ils essayent de dire je vais appliquer mon programme, etc. Mais il y a un moment où la porte se referme et ils se retrouvent avec leurs 30 élèves devant eux et ils sont tout seuls.
Justement.
Et c'est là où, s'il y a une élève qui porte une abaya à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque
c'est la peur
d'aller lui dire? Ou est-ce que ma hiérarchie me soutient, Samuel Paty? Là, tardivement, mais... Et c'est là où il y a une victoire. En fait, la victoire, elle est symbolique, certes, pour les islamistes.
Et ce qui paraît le plus simple, c'est de mettre un mouchoir sur ses convictions et de dire « je ne vais pas avoir de problème pour une jeune fille dans ma
surtout,
classe ».
Et dernière chose, pourquoi pas une autre jeune fille avec des convictions salafistes ou autres qui se dit « bah tiens, moi je vais commencer ça dans un autre lycée, autre part en
Bien
France ».
Je voudrais qu'on entende cet autre extrait parce que ça va exactement dans le sens de ce que vous disiez il y a un instant, Régis, les profs qui ont peur d'une manière assez globale. Écoutez Jean-Pierre Robin une nouvelle fois.
Ce qui est certain, c'est que la terreur, ça marche, ça fonctionne. Voilà. Les professeurs sont, certains d'entre eux, terrorisé par toute une série de petites situations comme ce professeur qui ne dit plus ceci est votre Bible ou tu écris comme un cochon parce que elle a peur que ces expressions qui lui étaient familières qu'elle utilisait avec un certain humour dans la classe ne puissent être mal interprétées et puissent dégénérer.
Je disais, Eric Tegner, l'islamisme teste l'école. On voit à travers ce que dit Jean-Pierre Robin, certaines choses qu'on ne peut plus dire, qui paraissaient pourtant sans importance. Elle est imprégnée. Enfin, l'islamisme teste l'école pour savoir jusqu'où il peut l'imprégner. Et force est de constater que ça fonctionne bien, en fait, jusqu'à présent.
Oui, et je pense qu'il faut dire les termes, parce que depuis le début, on dit l'islamisme, les islamistes ont gagné, etc. Mais pour moi, cette jeune femme est une islamiste. Cette jeune femme, elle n'a pas juste 10 ans, 11 ans, elle s'est un peu excitée, elle a fait une vidéo.
C'est une islamiste, elle est influencée par les islamistes, en tout cas, ça c'est sûr.
Elle est adulte. Lorsque le professeur est allé la voir, ils étaient trois. Deux jeunes filles ont justement choisi d'écouter le professeur et justement d'enlever leur voile. Et elle l'a refusé, alors qu'elle était avec ses amis. Donc on est quand même dans un cadre où en fait, elle ne se fait pas influencer par deux autres filles. Elle aurait pu être influencée dans le sens positif. Elle choisit elle-même de se mettre justement contre le professeur, ensuite de faire une vidéo qui fait 400 000 vues, où elle dit dedans, eh bien, j'espère qu'Allah va me donner ce que je souhaite, etc. À un moment donné, si on n'est pas capable de voir qu'une jeune femme comme ça, adulte, est une islamiste, on ne sera jamais identifié. Parce que demain, lorsqu'il y a des passages à l'acte, lorsqu'on essaye d'identifier des personnes et qu'on dit, oui, mais ça vient peut-être d'une enfance, d'une adolescence, etc. Ben, dans ce genre de cas, ce sont justement des signaux faibles qui sont plutôt forts, qui permettent d'identifier. Donc j'espère qu'au-delà de la simple plainte pour dénonciation calomnieuse, moi ça m'amuse beaucoup en fait de se dire que le sujet aujourd'hui c'est une plainte de dénonciation calomnieuse. Il faut caractériser aussi le fait que...
C'est quand même bien de voir ce signal que l'État a pris les choses en main, qu'il fait intervenir
c'est la justice. C'est un sujet d'islamisme. C'est d'abord un sujet d'islamisme avant d'être un sujet de dénonciation.
Le padvac, c'est terminé, nous a répété Gabriel Attal, puis la ministre de l'Éducation nationale. Vraiment, se demande Lisa Kamen-Hirsig, qui est professeure des écoles. Écoutez-la, Johan, vous reprenez.
On nous dit qu'on ne veut plus de padvac, mais en réalité, on fait du padvac quand même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'État vote des lois, édicte des règlements qu'il est incapable de faire appliquer. Hein. C'est très joli de vouloir empêcher les enfants de se vêtir d'une certaine façon ou d'avoir certains discours à l'école, mais encore faut-il pouvoir faire appliquer ces lois et ces règlements sans mettre en danger le personnel. On a laissé grandir en France une idéologie qui aujourd'hui envahit tout l'espace public. L'État ne peut plus se faire respecter nulle part. Comment des élèves dans les écoles se sentent-ils autorisés à contester l'autorité des professeurs, etc.
Je vais quand même revenir sur le rapport Robin, parce que ça fait au moins 20 ans que la classe politique est alertée sur ce qui se passe. Le rapport Robin, c'est quoi? C'est un rapport qui pointe l'influence grandissante de l'islamisme au sein de l'éducation nationale. Il a 20 ans, ce rapport. Il faut se souvenir de la personne à laquelle il a été remis, ce rapport. Il a été remis à François Fillon, en 2004, qui est ministre de l'Éducation nationale. L'ensemble de la classe politique, avait connaissance à ce moment-là de ce qui se passait. François Fillon, bien sûr, il le savait ce qui se passait.
Il a enterré le rapport.
Il a enterré le rapport.
Parce que il a dormi dans un placard pendant 20 ans.
Ce rapport a été enterré alors même que la classe politique savait très bien ce qui se passait. François Fillon, la preuve, c'est que 10 ans plus tard, il publie un livre qui s'appelle « Vaincre le totalitarisme islamique ». Pourquoi est-ce que François Fillon, lorsqu'il n'est pas au pouvoir, il dit « mais bien sûr, il faut s'attaquer à l'islamisme ». Pourquoi est-ce qu'il dit « il faut s'attaquer à l'islamisme, c'est un danger qui ronge notre pays ». Pourquoi est-ce que quand il était au pouvoir, il ne l'a pas fait ? Par peur. Mais l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés depuis 2004, voyant l'islamisme gagner du pays dans ce terrain, le sachant, n'ont pas agi par peur, en se disant...
Gagnant du pays dans ce terrain,
Gagnant du terrain dans ce pays, n'ont pas agi par peur, parce qu'ils se sont dit, ça va nous causer beaucoup de problèmes.
Alexandre.
Non, je suis tout à fait d'accord avec Yohann Uzaï, mais il faut peur de quoi ? Est-ce qu'ils ont eu peur du terrorisme islamique à l'époque ? Ils frappaient pas tellement. Ils ont eu peur du politiquement correct et d'un antiracisme devenu fou. Devenu fou, c'est ça la réalité. Donc
les minorités actives,
on voit que au-delà de faire appliquer la laïcité, il y a toute une politique à mener pour mettre hors d'état de nuire, j'allais dire, ces pseudo-associations censées combattre le racisme et qui font le jeu de nos ennemis, par exemple. Ensuite, on parle beaucoup de laïcité. Moi, je suis pour la laïcité et l'appliquer de manière ferme. Mais tout cela n'est qu'une conséquence collatérale d'une immigration massive qui a été mal gérée. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les personnes venues d'ailleurs ont reconstitué leurs mœurs en France et ne se sont pas intégrés. Donc tout ça, il faut le dire et il faut le mettre sur la table. Mais c'est vrai qu'il est bien tard. Il y a eu 2004 le rapport enterré par François Fillon, mais en fait on sait tout ça depuis 1989 et la première affaire du voile de Creil, c'est Lionel Jospin qui avait capitulé, qui s'en était remis au Conseil d'État déjà, qui avait dit ce sont aux chefs d'établissement de décider. Donc on a un train de retard et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué.
Dernier extrait de Jean-Pierre Robin, et puis on entendra une ou deux prises de parole sur le plateau. Ce qui est intéressant d'entendre de la part de Jean-Pierre Robin, c'est qu'il détermine un petit peu dans quel moment de l'instruction, des cours, interviennent ces problèmes de laïcité. C'est pas forcément quand le prof est en train de faire un cours d'histoire ou un cours de langue. Ce sont des moments bien plus précis, j'ai envie de dire, et qui sont pas forcément dans le cadre de l'enseignement lui-même. Écoutez, regardez.
Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas sur des sujets propres aux disciplines qui a le plus d'autocensure, mais sur les sujets qui traitent des valeurs. L'enseignement de la liberté d'expression, l'enseignement de la laïcité, l'enseignement de la lutte contre l'homophobie ou l'antisémitisme.
La mixité également.
La mixité, l'égalité filles-garçons. Voilà les sujets qui entraînent le plus de contestations les professeurs ont qu'ils ont de la difficulté à aborder et que certains ont peur d'aborder et n'abordent plus.
Éric Tegner, c'est une question de valeur, de culture et pas forcément, ces matières qui sont remises en cause.
Bien sûr, parce qu'on est, comme le disait Alexandre, sur un choc de valeur. Et c'est la grande problématique aujourd'hui, c'est qu'on pense la question de l'islamisme uniquement à travers le biais du terrorisme. C'est ce qui fait qu'on a pris des années justement à se réveiller. La même chose, moi, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a une dizaine d'années, ceux qui étaient les premiers à se battre contre l'islamisme, en tout cas, les médias qui pouvaient leur dérouler justement le tapis rouge, on se rappelle par exemple de Caroline Fourest, pour elle, l'argumentaire principal, c'était de dire on lutte contre le voile d'abord parce qu'on oblige les femmes, en fait, à porter un voile dans la religion musulmane. À aucun moment donné, ils ont su intégrer que ce n'était pas une question de féminisme, en fait, de défendre la femme. Ils n'osaient pas aborder l'aspect culturel. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles qui sont fières de porter le voile, qu'ils revendiquent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et qui, derrière, vont plutôt agresser d'autres jeunes filles pour lui dire « Et toi, tu ne portes pas la baïa ? Et toi, tu ne portes pas le voile ?» Parce que oui, c'est d'abord un choc de valeur, parce que c'est une opposition aussi entre deux systèmes, avec une religion musulmane qui, lorsqu'elle devient trop prépondérante...
Ce qui est terrible, c'est qu'il y a deux camps désormais. Il y a deux camps, véritablement, c'est l'impression que ça donne. Et notamment autour de la lecture qui est faite de cette affaire, autour du proviseur, ceux qui le défendent.
C'est la lecture des islamistes.
Que cette jeune femme est dans son droit. Et cette impression que oui, qui est ce clivage sociétal.
Le territoire de l'islam et le territoire de la guerre.
C'est un peu ça. Karima et Nathan, pour conclure sur ce sujet, puis on va parler de ces opérations PlaceNet qui se poursuivent partout en France. Pour quels résultats? On va en discuter. Karima.
Tout à l'heure, Johan évoquait le politiquement correct. Déjà, il y a 20 ans, les politiques qui ont fermé les yeux, qui ont laissé finalement le terrain aux islamistes radicaux. Et la particularité aussi d'aujourd'hui, la difficulté qui s'est rajoutée, je vous dirais, c'est que oui, certains tenants, on pourrait parler de la gauche radicale, notamment une partie, à tout le moins, de cette gauche, mais pas que, qui s'est un peu accoquinée aussi, je vous dirais, peut-être involontairement, mais à tout le moins, le résultat est le même,
relais, hein,
avec
ces
idéologies quand même qui peuvent être très rigoristes. Et on le voit, parce que même si je donne un exemple, par exemple, on parlait de la Grande-Bretagne ou même au Canada, qui est le pays du multiculturalisme, si on pousse la logique, il y a certaines associations aussi qui ont tellement poussé à tel point, je pourrais même vous dire que maintenant, vous pouvez faire votre serment de citoyenneté en niqab. Tout ce qui est lié à la laïcité comme telle, et même pour par exemple, des professeurs en autorité qui devraient mettre un signe qu'on leur dit,
mais
vous ne pouvez pas
droit,
mettre
cette
de signe religieux.
L'anglo-saxonne, multiculturelle.
Même ça, c'est perçu comme de la discrimination, des choses comme ça. Alors, je pense qu'on est là aussi en France et qu'il y a une partie du discours aujourd'hui qui vous dit et qui encourage aussi, je pense, certains jeunes à dire, vous êtes victime de discrimination par cette laïcité de l'État. Donc, finalement, la France serait complice de cette discrimination dans ce discours. Je parle des islamistes et des gens qui sont plus radicaux. Et ça, c'est extrêmement grave.
Nathan, on conclut.
Oui, je voulais répondre initialement à Alexandre, mais en fait, je pense un peu à tout le monde, parce que je pense que j'ai un désaccord avec, à mon avis, vous tous et toutes, sur une question. C'est que je disais tout
à
l'heure...
Mais nous sommes sur la chaîne du pluralisme, donc vous êtes le bienvenu.
Qu'il faut être intransigeant dans la lutte contre l'islamisme. Je suis d'accord avec vous quand vous disiez que c'était un problème de lâcheté, si on ne l'a pas été. Mais ensuite, il me semble quand même qu'il faut voir une chose, c'est que ce n'est pas que de la lâcheté. L'islamisme, c'est un fanatisme religieux. Mmh. Il se fait qu'en France... quatrième pays le moins religieux du monde, on ne comprend plus rien, mais plus rien du tout, aux faits religieux. Et qu'on confond des choses qui sont radicalement différentes. Le fanatisme religieux, là en l'occurrence l'islamisme, mais le fanatisme religieux, c'est quelque chose qui a lieu dans les esprits. C'est ce que disait tout à l'heure Monsieur Aubin, le refus d'entendre parler de certaines valeurs, le refus qu'il puisse y avoir des athées, le refus de discuter ou de tolérer qu'il y ait des gens qui aient d'autres religions, le refus qu'il y ait des LGBT, etc., des femmes libres, etc., etc., etc. Ça n'a pas lieu dans la pratique ou dans la vie religieuse en tant que telle. L'islam, comme le judaïsme, et c'est le deuxième désaccord que j'ai avec vous, c'est que si on regarde la communauté musulmane et la communauté juive, elles n'ont pas été religieuses de toute éternité. Elles sont devenues de plus en plus pratiquantes au tournant des années 80-90, alors qu'elles étaient en France depuis un certain temps. Donc il y a eu un tournant religieux de ces communautés. Oui. L'islam, comme le judaïsme, sont des orthopraxies. Ça veut dire des religions dont le rapport à Dieu passe par la loi. Donc qu'une jeune femme musulmane veuille porter son voile. Évidemment, je ne parle pas de celle qui a fait toute cette histoire de mensonges, de menaces de mort envers le professeur, mais juste qu'elle veuille porter son voile parce que c'est son rapport à Dieu, ça ne signifie pas ni qu'elle est fanatique, ni même qu'elle est fanatisée. Toute la question est de savoir dans quelle logique elle le fait. Mais non, mais encore une fois, quelqu'un qui pratique sa religion de manière orthopraxique,
c'est la
qui respecte sa loi religieuse, ça ne signifie pas qu'elle est fanatique. Sauf à supposer que la religion, en tant que telle,
je vois Régis Bouillonne, là.
Oui, je vais laisser prendre la parole. L'orthopraxie, c'est une culture et une civilisation. L'islam, tout est mélangé. Et c'est une manière de l'importer et de l'imposer aux autres. C'est pour ça que je disais que c'était une affaire d'immigration.
Et pourquoi ça se passe à l'école? Parce que l'école est un peu au fondement de notre civilisation. Et c'est ça qu'il faut attaquer en premier, pardon, Régis.
Ce qui est très important, enfin là Nathan, vous dites que c'est au début des années 80 que l'islam s'est, on va dire, politisé. En réalité, c'est faux. L'islam, elle s'est politisée dans les années 1920, au moment de la suppression du califat.
La communauté musulmane française.
Je parle d'une volonté mondiale de conquête du pouvoir mondial, ourdie par les frères musulmans, dont le créateur s'appelle Hassan Banna, et qui entreprend finalement, qui édique ses principes, c'est-à-dire d'utiliser les lois, justement, pour conquérir les pays. C'est la grande différence avec l'autre pendant de la radicalité islamique, qui est le wahhabisme, qui lui prône la violence. Les frères musulmans ont édicté ces principes en s'appuyant sur l'éducation, en s'appuyant sur la jeunesse, et ça existe depuis fort longtemps. Et à chaque fois, ils ont essayé, dans nos sociétés permissives, entre guillemets, ils connaissent extrêmement bien la loi, ils connaissent exactement ceux qui sont... On a vu Tariq Ramadan, on a vu un certain nombre de personnes œuvrer de cette façon, et aujourd'hui, ils arrivent à terme à s'attaquer et ils sont dans une position de force. Mais c'est un mouvement global qui existe depuis fort longtemps.
Je suis d'accord. Malheureusement, on va avancer vraiment. Je suis désolé.
Et je ne suis pas sûr que le judaïsme. Il n'y a pas le même mouvement chez les judaïs dans le judaïsme.
C'est très intéressant, mais on s'éloigne
un peu. Il y a un fanatisme.
Un demi-bout de phrase, vous parlez. Un demi-bout de phrase.
Je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'histoire des islamismes depuis un siècle. Je ferai juste une remarque. C'est que une jeune fille, c'est là le sujet, une jeune fille en France qui met le voile n'est pas forcément fanatisée. La preuve, à l'université, toutes ces histoires n'ont pas lieu parce qu'il n'y a pas la même loi. On peut tout à fait être étudiant et venir voir l'université.
D'ailleurs, c'est un,
sujet à l'université.
Parce que
je trouve ça un non-sujet inquiétant ce que vous dites. Du coup.
C'est un sujet de se dire que dans une même société, au sein de l'université, donc toujours dans le cadre de l'instruction, au sein de l'université, chacun vient comme il veut, alors qu'au sein de l'école, c'est pas le cas. Peut-être que ça, c'est un sujet aussi de nos sociétés qui complexifie la laïcité. Je mets un point final pour ce soir à ce sujet, les amis, parce que le temps file et qu'on a beaucoup de choses à montrer à nos téléspectateurs encore. Certains diraient que la bataille est peut-être perdue contre l'islamisme. Je me permets cette formule parce que d'autres disent que la bataille est déjà perdue contre les narcotrafiquants. Et pourtant, à Marseille, à Sevran, à Colombes, à Lille. Ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur a multiplié les opérations PlaceNet afin de lutter contre les trafics de stupes. Au total, 867 interpellations effectuées en France dans le cadre de ces opérations qui ont mobilisé des milliers de policiers, des milliers de gendarmes. Quelques dizaines de kilos de stupéfiants ont été saisis. C'est à Dijon que le ministre s'est rendu aujourd'hui pour assurer le suivi des opérations. Augustin Donadieu nous fait le récit de tout cela.
Allez les gars, on y va.
Le top départ est donné. Il ne faut pas laisser le temps aux dealers ou aux éventuels clients de prendre la fuite. Deux personnes sont rapidement repérées, puis contrôlées.
Vous êtes connu, les services de police ?
Non.
Jamais interpellé, jamais gardé à vue ?
J'étais mineur.
Ouais, c'était pourquoi ?
J'étais pas ici, c'était en Guyane.
Ouais, c'est pas grave, c'était pourquoi ?
En l'absence de drogue et d'argent sur eux, ils seront relâchés après un simple contrôle d'identité. Le quartier Fontaine-Douche à Dijon est dorénavant cerné par les forces de l'ordre et aucun recoin, aucune cache n'échappera au flair des sept chiens entraînés à trouver stupéfiants, billets ou encore armes. Les habitants sont ravis de leur présence.
Eh ben, ça sécurise. Hein. Vous savez que si le gouvernement donnait plus de pouvoir aux policiers, ben, je vous garantis qu'il n'y aurait pas ce qui se passe.
On voit qu'au moins on a de la sécurité. Voilà, ils nous protègent pour notre sécurité, comme je disais, parce que sortir dans l'avenue du lac, ça fait peur maintenant.
Pourtant, la police l'assure, elle mène quotidiennement des actions dans ces quartiers, rongés par le trafic de drogue et l'insécurité.
Les effectifs sont très investis, on est très investis. Nous y sommes tous les jours dans tous les quartiers de l'agglomération dijonnaise. Mais là, étant donné qu'on a beaucoup d'effectifs, c'est du harcèlement des points de deal en XXL.
Cette opération PlaceNet XXL à Dijon aura mobilisé une soixantaine de policiers et gendarmes durant une après-midi, une demi-journée durant laquelle habitants et commerçants ont retrouvé calme et sécurité.
Régis Le Sommier, c'est malheureux à dire, mais la vérité, c'est que ces résultats, ces quelques kilos de stupéfiants saisis au gré de ces opérations, n'auront aucun effet sur les trafiquants de drogue. Mais ça ne fait plaisir à personne de le dire, mais malheureusement, je pense que c'est la réalité.
On a vu à Marseille, hein, sur les interpellations, il y a certains policiers qui disaient que finalement, ça avait un petit peu augmenté, mais quasiment pas. Là, on voit qu'il y a une volonté, évidemment, de s'attaquer aux endroits les plus chauds. Dijon, c'est quand même marquant. Faut rappeler quand même qu'il y a une personne qui a été tuée pendant son sommeil le 23 novembre 2023 par dans un point de deal lors d'un
échange perdu, un règlement de compte.
Voilà. Donc on a quand même à Dijon, il y a une accélération des choses. Il y a des règlements de compte entre dealers qui sont absolument sanglants. Et donc le gouvernement se devait de faire quelque chose. Je pense que
c'est de la com ou est-ce que c'est réellement efficace dans le temps ? Si vous posez les questions aux riverains, la réponse est
non. Mais
question,
vous savez, il y a quelques temps, là maintenant, on fait des opérations XXL. À une époque, c'était le terme magique, c'était la CRS-8.
Oui, c'est vrai.
On envoyait la CRS-8 qui arrivait. Oh, alors vous voyez, nous on suivait avec les journalistes, etc. Et puis ça durait une semaine, au bout d'une semaine, les dealers, voilà. Là, on a vu à Marseille, c'est un peu la même chose avec les dealers qui disent on s'excuse du dérangement, mais vous inquiétez pas, limite on va vous rembourser.
c'est certains ont reçu sur les messageries de livraison
c'est là
à domicile. Ouais.
C'est là où en fait peut-être.
C'est terrible. Pardon pour la gêne occasionnée, mais tout va rentrer dans l'ordre dans très peu de temps.
Voilà, et puis on s'attaque à des gens qui ont un fric monstrueux.
On se bat contre des moulins avant.
qui ont des moyens monstrueux. Et c'est là où on a un problème par rapport à il y a quelques années. On dit le trafic de drogue a augmenté. Oui, le trafic de drogue a augmenté, mais les moyens qu'ont en face les dealers ont aussi augmenté et ils ont toujours une longueur d'avance.
Vous parliez de ce règlement de compte qui a donné lieu à ce terrible dommage collatéral qu'est la mort de cet homme qui a reçu une balle perdue. Et à Dijon, on s'en souvient. Écoutez cette riveraine qui dit sa peur, interrogée par nos équipes.
La peur, vous sortez, vous avez toujours peur de prendre une balle dans le crâne, comme ça a failli m'arriver dimanche. J'ai sorti mon chien, heureusement, je traverse. Le mec a tiré, j'aurais pas traversé, mon chien prenait la balle ou moi. Là, franchement, ça fait 10 ans que j'habite là. Il n'y a jamais eu de problème de drogue, et là, depuis l'année dernière juillet, il y a que ça.
Eric Tegner, le jour où la justice frappera fort, pardon, peut-être qu'on verra un début de bout du tunnel.
Oui, mais là, c'est Éric Dupond-Moretti qui est à la tête de du ministère de la Justice aujourd'hui. Pour moi, c'est une énorme opération de communication, cette opération XXL. Effectivement,
ouais, surtout voulu par Gérald
ils
Darmanin,
ont
hein.
juste changé le nom parce qu'ils voient bien qu'il faut donner l'impression qu'ils font quelque chose. Mais si de l'autre côté, il n'y a pas un volet pénal, évidemment que ça ne tient pas. Mais vous savez, il y a un problème de fond. Est-ce qu'à un moment donné, on a envie qu'en France... Eh bien alors qu'effectivement, il y a le business de la drogue qui avoisine les 2 milliards d'euros par an, qui est intégré d'ailleurs dans le calcul du PIB. Est-ce qu'on a envie justement d'y mettre fin? Parce que derrière tous ces jeunes des quartiers qui vivent du trafic de drogue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, il y a des risques d'émeutes. Et ça, on le sait très bien. Alain Bauer, que vous avez interviewé justement au Figaro, en parle parfaitement, où il dit qu'il faudrait plutôt rester longtemps dans ces cités, sauf au bout d'un mois, en règle générale, il peut y avoir des risques d'émeutes. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est l'achat de la paix sociale. Et dans le même temps, quand il y a cette opération XXL, eh bien, il y a les caïds de la drogue qui sont à la prison des Baumettes, qui sont peinards sur leur téléphone et qui gèrent le trafic de drogue. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Marseille, ce qui a d'ailleurs valu une polémique au directeur de la rédaction de La Provence, qui avait titré justement sur cette phrase d'un caïd des prisons qui disait « on s'est bien marré en prison quand Emmanuel Macron est venu ».
Les Français s'inquiètent également du risque d'attentat, notamment dans cette séquence une semaine après l'attentat à Moscou et cette vigilance renforcée marquée depuis le début de semaine autour notamment du plan Vigipirate. On en parle dans quelques secondes après le rappel de l'actualité. Maureen Vidal.
Dans le Haut-Vernay, l'enquête autour de la disparition du petit Émile continue. De nouvelles investigations ont été menées aujourd'hui avec une mise en situation. 17 personnes, dont la famille du petit garçon disparu le 8 juillet dernier, ont été convoquées pour y prendre part. Face aux menaces d'attentats qui ont visé des collèges et des lycées ces derniers jours, Nicole Belloubet a annoncé suspendre la messagerie dans tous les espaces numériques de travail des établissements scolaires. Aujourd'hui, un jeune homme de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue dans les Hauts-de-Seine. Enfin, 1357 personnes interpellées, dont 751 objectifs judiciaires, soit des personnes arrêtées à la demande de juges grâce à l'opération PlaceNet XXL développée partout sur le territoire ces derniers jours. Des chiffres communiqués par Gérald Darmanin face aux critiques sur l'efficacité de ces opérations antidrogue.
Merci beaucoup Maureen Vidal. Plusieurs nations étrangères, dont la Pologne, on a appris ça aujourd'hui, vont envoyer des soldats pour aider à sécuriser les Jeux Olympiques de Paris. Un renfort. Oui, je vous l'apprends, Alexandre.
Non, mais c'est une information qui m'a fait sourire. Je l'ai appris dans mon journal.
Renfort.
Enfin, qui m'a fait sourire en jaune, mais je vais vous dire pourquoi.
Renfort que la France. Alors que la France, est en alerte maximale attentat. Selon le ministère des Armées, les besoins sont conséquents dans plusieurs domaines, dont celui des capacités cynophiles. Des soldats étrangers à la rescousse. Allez-y, Alexandre.
Je souriais à jaune. Parce que j'ai entendu le président de la République il y a quelques mois parler de coalition contre le Hamas, ensuite de coalition contre Vladimir Poutine. Et en fait, je vois qu'il y a une coalition, mais en fait, c'est pour défendre la France de la menace interne.
On va demander
je pense qu'il fallait le faire. Ça montre l'urgence et la peur. Je crois que c'est d'ailleurs l'attentat à Moscou qui a déclenché cette alerte chez les pouvoirs publics. Il fallait le faire, mais c'est dramatique. Vous imaginez, il faut une coalition
non, mais alors déjà,
de militaires.
militaire pour défendre la France.
Ça c'est déjà fait. Par exemple, je vais vous dire, soyons tout à fait objectifs et honnêtes. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Je sais que notamment là, alors je vais pas peut-être dire une bêtise. Je sais pas si c'est la gendarmerie ou la police nationale, mais sont intervenus notamment au Qatar pour aider le Qatar pendant la Coupe du Monde 2022 sur des sujets de sécurité. Je crois que c'était les gendarmes, mais on va me le confirmer dans
le. D'accord, il y a des échanges de renseignements.
Des échanges de sécurité.
C'est vraiment quelque chose d'assez classique en réalité. C'était le cas au Brésil. Le Brésil avait fait appel
pour les Jeux Olympiques,
absolument. avait fait appel à différents pays pour venir en renfort de la sécurité. La France avait effectivement envoyé des gendarmes, non pas pour le renseignement, mais des gendarmes pour effectivement aider à la sécurité au Qatar.
Les Américains, ils vont pas nous demander de l'aide.
Et c'est quelque chose qui est assez classique en réalité. Et c'est prévu. Ouais. Le gouvernement polonais a dit que tout cela avait été monté.
Je crois qu'on a une citation du ministre.
L'opération a été montée au mois de janvier, donc ça n'est pas en lien avec l'attentat de Moscou qui a eu lieu la semaine dernière, mais c'est prévu depuis au moins deux mois.
En tout cas, c'est Jean-Charles Brizard, je suis pas sûr, les amis.
C'est étonnant parce que ils auraient pu en parler depuis longtemps.
C'est pas Jean-Charles Brizard, c'est Monsieur Cosignac Camis, ministre de la Défense de Pologne, qui dit les forces armées polonaises rejoindront la coalition internationale mise en place par la France pour soutenir. Attendez, les amis, je lis s'il vous plaît, pour soutenir les préparatifs et la sécurité des Jeux, une task force composée de nos soldats, dont des maîtres chiens, sera envoyé à Paris. Son objectif principal sera d'entreprendre des activités liées à la détection d'explosifs et à la lutte contre les phénomènes terroristes. S'ils sont à la pointe des cynophiles, des brigades cynophiles, bon, et des...
Franchement, c'est pas génial. Ça donne pas une magnifique image. Je parle pas à l'étranger, je parle même par rapport à nous-mêmes. Il y a un aspect, à mon avis, qui est central. C'est que là, il commence déjà à y avoir des petites alertes sur certains qui veulent annuler la configuration actuelle de la soirée.
Ouais, mais ça, c'est une fausse information. On en a appris aujourd'hui. On a creusé notamment Sandra Buisson.
C'est ce que je dis.
On dément totalement cette affaire de plan B voulu par la DGSE
dans le débat
sur
public,
la cérémonie.
Il y a des gens qui posent ça, qui disent, qui veulent mettre l'alerte.
Ça n'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment.
Mais justement, moi, à mon avis, ce qui est très très important, c'est dans le contexte difficile que nous traversons, géopolitique, avec la Russie, évidemment lié au conflit entre Israël et le Hamas, lié à l'islamisme, il est central, je pense, de ne pas abandonner cette soirée d'ouverture qui, en effet, est un immense défi, parce que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire des JO, de le faire sur toute la Seine, dans un lieu qui est complètement ouvert, auquel tout le monde ne peut pas accéder parce qu'il y aura des barrages, mais en tout cas, ça va être un défi d'organisation absolument majeur.
C'est
je pense
folie.
Que ce serait que c'est absolument majeur, que tous les moyens sont bons pour préserver cette soirée ouverte à ciel ouvert.
Un sondage CSA pour CNews Europe 1, le journal du dimanche, révèle aujourd'hui que les Français craignent fortement qu'un nouvel attentat ait lieu dans le pays dans les semaines ou les mois à venir. On pense bien sûr à cette échéance des Jeux. Il en résulte que les Français ont placé, vous allez le voir, le curseur à 7 sur 10, indiquant donc redouter assez fortement une nouvelle attaque terroriste dans les semaines ou les mois à venir. Un commentaire là-dessus et puis on va avancer. On va essayer de parler aussi de la Russie et la suite de l'enquête autour de ce terrible attentat de la semaine dernière, Régis.
Moi, je m'interroge sur le continuum de sécurité publique-privée qui devait être mis en place.
C'est ça, le vrai sujet.
Pour les Jeux Olympiques, on s'en souvient, ça avait commencé. La première alerte avait été au moment de l'histoire des fameux hooligans britanniques et du Stade Saint-Denis où Gérald Darmanin... et là, on s'était dit, il y a peut-être un problème parce que les Jeux Olympiques arrivent, ça va se dérouler dans le même endroit, ça va se dérouler, il y a une cérémonie d'ouverture, etc., etc. Et on a dit, les objectifs, ça doit être 30 000 vigiles, etc., etc. Est-ce que cette déclaration, c'est là où moi alors, il y a effectivement la menace terroriste qui s'est renforcée, qui est bien plus importante. Mais est-ce que on a rempli cet objectif? La vraie question.
Je crois qu'en termes de sécurité privée, le compte n'y est toujours
pas. Il y a 1 million de personnes qui devaient ficher, justement. Je crois qu'ils en sont qu'à la moitié.
Ouais, et du reste, est-ce qu'on peut faire confiance à la sécurité privée? C'est quand même une question.
Faisons confiance à nos amis étrangers, internationaux, qui vont venir.
C'était un symptôme de déclassement, quand même. Et je pense que c'est une réponse, moi, contrairement à Johan, que ça a été annoncé maintenant.
C'est commun. Franchement, on peut parler souvent de ce terme de déclassement dans beaucoup de sujets dans notre pays, mais pour avoir encore une fois un petit peu travaillé le sujet.
On n'est pas le Brésil.
Ça se fait largement sur beaucoup d'événements, des coopérations internationales comme ça, de renforcement de sécurité. Donc bon, jetons pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit à chaque fois. Et puis accueillons comme il se doit nos amis sinophiles, notamment polonais.
J'ai jamais entendu une coalition de pays pour
venir. Coalition,
c'est avec une tasse forte. On est quand même.
Il a dit.
On a l'impression qu'on va intervenir. Le même vocabulaire pour intervenir en Ukraine.
La Russie, Karima, oui.
Non, mais j'allais dire, aujourd'hui, on voit quand même juste la question de l'organisation maintenant des Jeux Olympiques. Ça a toujours été extrêmement complexe, mais aujourd'hui, justement, avec ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, à l'international, les risques terroristes et particulièrement la France qui est ciblée depuis plusieurs années, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe maintenant Israël, donc Gaza et tout ça. Donc, tout ce contexte-là, moi, je me dis, même les prochaines fois, je pense qu'il y a des pays qui vont véritablement se poser la question, est-ce qu'on organise encore...
Ah ben, il y a de moins en moins de candidats. Pour les Jeux olympiques,
oui, parce qu'en plus, on sait à quel point...
Les Jeux d'hiver, ils sont attribués directement parce que personne ne les veut. Enfin, c'est c'est un coût terrible pour un État. Qu'est-ce que vous vouliez faire une blague?
Non, c'était pas de très... Non, j'allais dire, je sais pas si les maîtres chiens détectent les faux billets.
Oui,
c'est une question. Extraordinaire, vous auriez pu la sentir.
Attends, vous n'avez pas la petite cymbale, les amis, pour faire plaisir à Nathan? Non. Bon, merci beaucoup. Vous êtes meilleur dans vos bouquins. La Russie, merci Nathan. La Russie, Vladimir Poutine. C'est bien de sourire un peu parce que c'est vrai que l'actualité est particulièrement morose. Donc merci Nathan pour ce petit sourire.
De rien, c'est avec plaisir. Je le referai avec plaisir.
Quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. La Russie de Vladimir Poutine, je reprends mon sérieux, qui continue de pointer du doigt l'Ukraine. Régis, je me tourne vers vous parce que je voudrais qu'on décrypte 2-3 minutes là encore ces nouvelles déclarations. Continue de pointer l'Ukraine du doigt après ce terrible attentat de Moscou, pourtant revendiqué par deux fois, même plus, je crois trois fois. L'État islamique au Khorassan. Les enquêteurs russes affirment aujourd'hui donc détenir des preuves de liens entretenus par les auteurs de l'attentat de Moscou avec des nationalistes ukrainiens, alors que Kiev dément bien sûr toujours l'implication dans l'attaque. Écoutez la porte-parole du comité d'enquête russe qui s'exprimait aujourd'hui.
Après avoir travaillé avec les terroristes détenus, examiné les dispositifs techniques saisis et analysé les informations sur les transactions financières, des preuves de leur lien avec les nationalistes ukrainiens ont été obtenues. L'enquête a permis de confirmer des données selon lesquelles les auteurs de l'attaque terroriste ont reçu depuis l'Ukraine d'importantes sommes d'argent et des crypto-monnaies qui ont été utilisées pour préparer le crime.
Une semaine après, Régis Le Sommier, la thèse de l'Ukraine reste donc l'obsession de Vladimir Poutine.
Bah oui, puisqu'il y a une guerre que Moscou livre depuis 2 ans à l'Ukraine, et évidemment, l'objectif, c'est de s'emparer de cette affaire et d'essayer. Et ce qui est quand même incroyable, moi, je crois que
c'est tellement gros
de l'histoire quand même du terrorisme islamiste et en particulier de Daesh, que Daesh soit obligé de s'y reprendre à 3 fois. Pour revendiquer jusqu'à publier les images, on peut dire irréfutables, de la GoPro d'un des terroristes qui montre vraiment, bah oui, on est les seuls à posséder ces images-là et on les montre. Voilà, c'est quand même quelque chose. Il y a eu tellement de pistes aussi élaborées, foireuses, etc., etc. Bon, le fait est que ces terroristes-là, on avait même dit que l'un d'entre eux avait la nationalité ukrainienne. Enfin, bref, tout un tas de choses.
Il est dans sa matrice idéologique et
la vraie question,
justement,
c'est
se rapprocher un petit peu du Conseil des Nations et faire de cette lutte contre le terrorisme façon peut-être d'apaiser.
On va voir comment ça va se passer parce que avec Emmanuel Macron, il y a quand même eu une forme de reconnaissance mutuelle d'un ennemi commun qui est Daesh. Et la perspective justement de ce qu'on vient d'évoquer sur les Jeux Olympiques montre que ce qui s'est passé à Moscou pourrait très bien se produire chez nous. Et là, il y a quand même la prise de conscience de quelque chose. Mais pour ce qui est des Russes, ce qu'on a vu là, c'est à destination du peuple russe. C'est il faut tenir, les Ukrainiens nous envoient des terroristes, il faut se battre, il faut les vaincre. Voilà, c'est tout. C'est pas un discours qui est à destination de la communauté internationale du tout, celui-là.
John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a dit aujourd'hui que les dirigeants russes essayent de diffuser une propagande absurde au sujet de cet attentat, dont le seul responsable, rappelle encore John Kirby, est l'État islamique. Rapidement, parce que je voudrais vous montrer une dernière photo sur laquelle il y aura quelques commentaires à apporter, je pense, ensemble.
C'est pas commun, et je pense même que c'est assez inédit dans l'histoire du terrorisme. qu'un pays qui est victime d'un attentat terroriste, soit ses dirigeants soient eux-mêmes complotistes. En général, quand il y a un attentat terroriste, les complotistes viennent souvent des complices des barbares, des gens qui veulent nier le massacre parce qu'ils ils s'en réjouissent fondamentalement. On l'a vu le 7 octobre. Et là, c'est le pays victime. Le chef d'État du pays victime, qui est le premier négateur des faits dont sa population ont été victimes. Ça, c'est quand même inédit, et sauf erreur de ma part, je n'ai pas de précédent historique en tête.
Éric Tegner.
Alors, à une époque, c'était difficile chez nous de caractériser un attentat islamiste. Hein, donc ça nous est arrivé pas du tout à la même échelle. Je dirais que ça nous rappelle une chose, c'est qu'en fait, dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a de la propagande permanente des deux côtés. Je tiens quand même à rappeler que du côté ukrainien, au bout de 30 minutes, c'était un attentat organisé par la Russie eux-mêmes. Je pense à des chaînes c'est concurrentes hein, sur LCI. Au bout de 20 minutes, vous allumiez votre poste de télévision. Mais des gens disaient, ah, c'est Poutine, on sait qu'ils l'ont fait au début des années 2000 avec la Tchétchénie, etc.
C'était une hypothèse. Voilà,
c'est qu'à un moment donné.
Ça a fait partie, non, mais ça a fait partie des hypothèses.
Oui, mais ce qui est arrivé,
donc
ouais.
À un moment, on peut sauver l'hypothèse.
Oui, mais au bout de 20 minutes,
justement, il vaut mieux le faire au bout de 20 minutes qu'au bout de 3 jours.
Oui, mais ça rappelle qu'il y a de la propagande des deux côtés là-dessus et qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'un et de l'autre.
En tout cas, il s'enferme vraiment dans ses accusations, Vladimir Poutine. Et malheureusement, ça semble préparer la population à quelque chose de plus gros sur l'Ukraine.
Une offensive de printemps, de toute façon, elle va avoir lieu. Donc
on suivra tout ça, évidemment, avec très grande attention. Je voudrais profiter des 3-4 dernières minutes avant la revue de presse pour avoir votre avis sur cette récompense qui suscite pas mal l'indignation. L'agence de presse Associated Press, l'agence américaine Associated Press, a remporté le premier prix de la photo de l'année, notamment grâce à ce cliché qui montre le corps à moitié nu de Shani Luke, gisant à l'arrière d'un pick-up du Hamas le 7 octobre dernier, après qu'elle a été brutalisée, kidnappée au Festival Nova. Un cliché qui a fait le tour du monde, qui a soulevé une vive polémique parce qu'il suggérait que son auteur, Ali Mahmoud, qui se trouvait sur place, avait eu connaissance de l'attaque à l'avance. Un commentaire. Est-ce qu'il vous choque ce prix, Alexandre Devecchio?
C'est pas la photo en elle-même.
Non, si
la photo,
c'est le fait qu'elle a été prise par quelqu'un qui était sur place au moment de l'attaque.
Exactement, qui était sur place et qu'on se soupçonne. Oui, c'est terrible. C'est terrible et Associated Press ne devrait pas en être fier. Elle devrait même retirer ce cliché peut-être de la circulation. Donc oui, je comprends l'émotion et l'indignation. Évidemment.
Elle est importante, cette photo. Elle discrédite peut-être son auteur, mais elle permet de montrer une réalité également.
Elle montre une réalité, mais elle montre aussi le fait que ces auteurs-là, mais ils vivent.
Évidemment que dans la réalité, cette photo n'est pas floutée à l'arrière. On distingue parfaitement le corps de cette pauvre jeune femme.
Ces photographes, en fait, ils vivent à Gaza. Donc, s'ils vivent à Gaza, ils sont sous la coupe du Hamas, forcément. Et quelque part, ils appartiennent à cet appareil politique et ils en sont un rouage malgré eux. Même si ça peut être de grands journalistes in fine, il y a quand même cette contrainte. On est dans un... Voilà. Et donc ça, il faut toujours le spécifier. Et c'est toujours le problème d'avoir des correspondants locaux.
Quelque soit l'origine du journaliste et la raison pour laquelle il a réussi à prendre cette photo, c'est une photo qui doit exister, Nathan Devers. Elle doit exister parce que malgré ce qui entoure son contexte, elle a la vertu de rappeler au monde ce qui s'est passé le 7 octobre.
Une photo qui doit exister, c'est une photo qui existe.
Exact.
Et c'est tout le paradoxe, c'est que je pense que le 7 octobre fait partie sans doute des attentats qui ont été les plus filmés, les plus montrés, les plus diffusés, les plus exhibés. Que d'ailleurs, ça fait cette singularité que les images qu'on peut avoir dans le mémorial mental de chacun et chacune sur le 7 octobre, c'est des images qui ont été prises par les barbares, alors qu'en général, les barbares ont plutôt tendance à vouloir cacher, et que pourtant, il y a une vague de négationnisme plus ou moins explicite. Alors ça peut aller du complotisme débile à la relativisation, à la contextualisation, à la minimisation des crimes sexuels. Alors qu'en effet, tout est là, tout est dans ces images qui ont été prises par les photographes, par les barbares et par les photographes qui leur servaient de sbires. Donc c'est ça qui est le paradoxe de la situation.
Karima, vous voulez apporter un dernier commentaire très rapide parce qu'on va faire la revue de presse.
Cette photo existe, elle témoigne de l'horreur qui s'est produite, effectivement, sauf que le contexte quand même de savoir est-ce qu'il y avait une complicité ou pas, de récompenser s'il y avait une complicité ou pas, ça pour moi, c'est qu'il y a quelque chose d'abject.
Vous
comprenez, la photo, elle va continuer d'exister malgré tout, mais le fait qu'il y ait ce flou sur le contexte, moi, ça me rend quand même assez mal à l'aise.
Bon, on va essayer de finir cette émission avec un petit peu de sourire. Alors, l'imprimante n'a pas marché ce soir, donc j'ai pas la revue de presse dans les mains. C'est notre ami Marwan qui nous aide à préparer cette émission, qui va me l'apporter. Venez Marwan, on est en direct, ça fera plaisir à la famille de Marwan de voir à quel point il est élégant, à quel point il prend bien la lumière. Cher Marwan, comment ça va?
Ça va et vous?
Ça va? Viens, venez, venez, on va la faire ensemble. Marwan Sahir, qui, regarde, il est costaud, hein. Il est beau comme un dieu. Et il nous aide à préparer l'émission. Marwan, la revue de presse aujourd'hui. Oh, vous l'avez fait en couleur, en plus. Ouais, en couleur. Sympa. Merci beaucoup. Alors, Le Figaro, les amis, on commence grâce à Marwan. Déficit budgétaire, question sur l'imprévoyance de Bercy. On en a parlé un petit peu. Et puis les jeux, évidemment. Ah oui, ça, c'est une affaire qui a beaucoup été traitée. On l'a pas fait ce soir, mais on en parle beaucoup sur CNews. Des migrants de Paris qui sont relocalisés à Orléans. Et le maire fustige cette affaire. Les entreprises sommées de passer la voiture électrique pour les échos. On lira ça avec le gouvernement face au risque de cacophonie concernant les impôts et les comptes publics. Aujourd'hui en France, Le Parisien. Ah, c'est vrai qu'il y a un classico. Dimanche, Marseille-PSG. Et puis cancer, pourquoi tant de jeunes malades? C'est le grand dossier du Parisien, très important, qu'on pourra lire également dans les premières pages. La presse régionale, la stratégie de Renault pour Ouest-France pour rester dans la course. Cheveux, ah oui, je voulais le faire, mais bon, on n'a pas eu le temps. La loi discrimination. Vous êtes passé à côté, Nathan. ce soir, Corse Matin, dans les pas de l'Incatenatu. Qu'est-ce que c'est, Nathan, vous qui savez tout, l'Incatenatu? En ce vendredi saint, plusieurs communes vont commémorer la crucifixion du Christ. L'Incatenatu rassemblera pour la 50e année de nombreux fidèles. Qu'est-ce que me dit dans l'oreille? Il y a eu la messe en Corse? Oui, c'est vrai qu'on a eu la messe en direct de Corse aujourd'hui pour ce beau week-end pascal. Oh. Et puis tiens, faites-nous Nice Matin, Marwan. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Nice Matin? Bien dans le micro.
Quelle patinoire pour les JO 2030? Donc, je pense qu'il se pose une question sur...
Bien sûr. Point d'interrogation.
Ouais, effectivement. Quelle patinoire adopter pour une compétition sûrement internationale en 2030?
Et ben voilà, j'ai trouvé mon remplaçant pour la saison prochaine. Merci beaucoup, Marwan Sahir, qui a préparé. On l'applaudit, Marwan. Exceptionnel. Marwan qui a préparé cette émission avec Maxime Fer et Martin Mazur. Reste avec moi, Marwan. Reste avec moi. On va dire au revoir aux téléspectateurs. Ensuite, l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Et puis donc, Soir Info, ce week-end, c'est avec Olivier de Carenfleck. Week-end Pascal, vous avez mangé du chocolat?
On va essayer.
Et ben très bien. Merci beaucoup, Marwan. Je vous souhaite qu'est-ce qu'il y a? Bon, très bon week-end à tout le monde et à lundi pour Soir Info. Merci beaucoup.
Vous auriez pu nous ramener les chocolats.
Merci, Marwan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.